toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi et François-Xavier de Calonne. Au sommaire de ce point actualité sur la situation à Gaza, le secrétaire général des Nations Unies s'est dit profondément préoccupé par les violations continues du cessez-le-feu en vigueur dans l'enclave. Sur la situation au Soudan, le patron de l'ONU a appelé à des négociations pour un arrêt immédiat du conflit et a mis en garde contre une crise en train de devenir incontrôlable, selon ses mots. Et dans l'actualité en France, Dabia Benkired, qui en 2022 avait tué Lola Davier, 12 ans, n'a pas fait appel de sa condamnation à la perpétuité réelle qui a été prononcée par la Cour d'assises de Paris le 24 octobre dernier. Et on débute ce journal par l'actualité au Proche-Orient. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit profondément préoccupé par les violations continues du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Hier, 7 pays musulmans se sont réunis à Istanbul pour discuter de l'avenir de l'enclave palestinienne. Ils ont insisté sur une gouvernance par les seuls Palestiniens et ont refusé qu'un nouveau système de tutelle soit imposé au territoire. Dans le reste de l'actualité internationale sur la situation au Soudan, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à des négociations pour un arrêt immédiat du conflit et a mis en garde contre une crise en train de devenir incontrôlable, selon ses mots. Une proposition de trêve portée par les États-Unis va être étudiée par le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l'armée soudanaise. Dans un tout autre, New York élit aujourd'hui son nouveau maire et le favori des sondages, Ezohran Mamdani, musulman d'origine indienne de 34 ans, de gauche et issu du Parti démocrate, un fervent opposant à Donald Trump. C'est notre dossier du jour à suivre. Et enfin, dans l'actualité en France, Dabia Benkired, qui en 2022 avait tué Lola Davier, 12 ans, n'a pas fait appel de sa condamnation à la perpétuité réelle qui a été prononcée par la Cour d'assises de Paris le 24 octobre dernier. Le porte-parole de Shein en France, Quentin Ruffa, a assuré que le géant asiatique collaborera à 100% avec la justice. Il a assuré que l'entreprise était prête à partager le nom des acheteurs de poupées sexuelles d'apparence infantine à caractère pédopornographique. Le géant du e-commerce AliExpress a également été signalé à la justice française. Et enfin, le ministère de l'économie réunit des acteurs du secteur bancaire et des représentants de consommateurs à Bercy, aujourd'hui à 15h, pour tenter de les rassurer concernant le durcissement des règles sur les découverts bancaires en 2026. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Et notre premier dossier est consacré à la résolution du Rassemblement National sur la suppression des accords franco-algériens de 1968. Un texte non contraignant, voté avec l'appui des Républicains et d'Horizon. Le Modem et Renaissance ont voté contre. Ces accords régissent encore aujourd'hui une partie du statut des ressortissants algériens en France, notamment en matière de séjour et de travail. Mais que reste-t-il de cet accord après plusieurs révisions ? On fait le point avec l'historien Gilles Manceron, spécialiste de la période coloniale.
Il y a une situation particulière pour les Algériens qui est due à l'histoire, qui fait par exemple que les conditions d'emploi dans certains domaines, par exemple pour un étudiant qui voudrait avoir des petits boulots, comme on dit, pour payer son séjour, ne sont pas les mêmes que pour d'autres. Il y a quelques dispositions particulières qui relèvent, qui sont la conséquence des accords de 68, des accords bilatéraux entre les deux pays, qui ont été à trois reprises amendés et qui peuvent l'être de nouveau pour ajuster un certain nombre de choses. Mais il est, à mon avis, absurde de voter dans le cadre d'une résolution de l'Assemblée nationale une décision d'abroger, de mettre fin à ce traité de cette façon-là, puisque c'est un traité entre deux États, que les deux États discutent entre eux des amendements nécessaires.
Mais cette différence aujourd'hui, en quoi reste-t-elle légitime plus de 60 ans après ? plusieurs générations.
Eh bien, écoutez, il y a eu, avant les 60 ans, il y a eu 132 ans. Pendant ces 132 ans, l'Algérie était partie du territoire de la France. Il n'y avait qu'un seul État. Il a fallu donc couper en deux, si je puis dire, du point de vue des frontières entre les deux États, de la reconnaissance de leur existence internationale spécifique, et du point de vue du droit des ressortissants, au point de vue de la circulation de ceux-ci d'un pays à l'autre. Donc il a fallu procéder à un exercice juridique complexe et nécessaire. Nécessaire par le fait, comme je vous le disais, depuis 1900, il y a des ouvriers venus d'Algérie, souvent de régions pauvres comme la Kabylie, qui ont creusé le métro parisien, qui ont vécu 10 ans, 20 ans, qui sont parfois restés ensuite, eu des enfants, et on en est à la troisième ou quatrième génération maintenant. Donc ces deux pays étaient historiquement, humainement imbriqués. Si je puis dire.
Mais aujourd'hui, c'est une reconnaissance mémorielle, le maintien de ces accords, malgré leurs multiples révisions.
Eh bien, ces accords sont un legs de l'histoire. Ils sont la conséquence de la colonisation 132 ans, puis des accords d'Évian 62. 6 ans après, un accord de 68 était nécessaire pour adapter les problèmes de circulation et de séjour de gens qui circulaient librement, antérieurement, comme ressortissants d'un même ensemble politique, la France. Donc il fallait bien faire quelque chose, d'où ces accords de 68, et à 3 reprises, ils ont été amendés.
Vous venez d'écouter Gilles Manceron, historien, spécialiste de la période coloniale, au micro de François-Xavier de Calonne. Cap maintenant sur les États-Unis. Notre second dossier du jour est consacré à l'élection municipale qui a lieu aujourd'hui à New York. Et tous les regards se dirigent vers le favori des sondages, Zohran Mamdani, un Américain de confession musulmane, un homme d'origine indienne, âgé de 34 ans, issu de la gauche et du Parti démocrate. Et on fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, Noël, alors il y a l'Amérique vue par Donald Trump et il y a l'Amérique vue par les citoyens new-yorkais. Deux salles, deux ambiances. Big Apple vote traditionnellement démocrate. New York élit donc aujourd'hui son nouveau maire et dans le monde entier, un homme suscite l'intérêt. Vous l'avez dit, Zohran Mamdani, les sondages le donnent favori au grand désespoir du président des États-Unis, l'un de ses farouches opposants. Donald Trump a souvent pris position dans la campagne. Il a encore appelé ce lundi soir à voter pour son principal adversaire, l'ex-gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. Que vous aimiez personnellement Andrew Cuomo ou non, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous devez voter pour lui et espérer qu'il fasse un travail fantastique. Il en est capable. Mamdani ne l'est pas. Des mots de Donald Trump sur son réseau social. Le président des États-Unis qui se fait menaçant si le candidat communiste, dit-il, Zohran Mamdani, remporte l'élection pour devenir maire de New York, il est très peu probable que je contribue avec des fonds fédéraux à l'exception du strict minimum requis.